מגן דוד אדום, שלום.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MDA Shalom. Plus de deux semaines après les séismes qui ont secoué la Turquie et la Syrie, la situation reste préoccupante. Comment se sont organisés les secours sur place? Quels ont été les besoins matériels? Comment la logistique s'est mise en place? Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Shalom Galil, médecin urgentiste au sein du MDA, qui est rentré il y a peu de Turquie. Shalom Galil, bonjour.
Bonjour. D'ailleurs, vous m'avez flatté. Je suis pas médecin, je suis paramédic.
Un paramédic.
Voilà. C'est une profession qui n'existe pas en France.
Oui.
On peut un peu l'expliquer comme infirmier anesthésiste, mais sur le terrain, c'est pas dans les salles d'opération. C'est un travail qui fait le travail de médecin du SAMU.
Oui.
Mais en étant paramédic. C'est ça. C'est une différence. Ça existe dans les pays anglo-saxon.
D'accord. Bah écoutez, quoi qu'il en soit, c'est tout à votre honneur de pouvoir porter, d'avoir les compétences pour pouvoir porter secours. Alors, donc, vous étiez en Turquie, vous êtes rentré il y a peu. Avec votre équipe, vous étiez basé où?
Alors, on était basé dans la ville de Karamaraş. Mmh. C'est situé au sud-est de la Turquie. C'était dans les zones très touchées de la Turquie.
D'accord. Alors moi j'ai une première question effectivement parce que quand des séismes d'une telle ampleur se passent, les dégâts sont considérables, les besoins immenses. Vous en tant qu'organisation ONG indépendante, comment à partir de quel moment la décision est prise de partir et comment ça se place sur place la logistique entre les différentes organisations qui arrivent, qui décident que vous allez dans telle ville, que vous vous occupez de tels traumas, qu'au contraire l'équipe va plutôt faire la recherche de survivants. Comment tout ça se met en place?
Alors, comme je suis sorti avec, si on peut dire, deux chapeaux, le chapeau de l'armée et le chapeau du MDA, donc c'est un peu mitigé. En gros, ce qui se passe, c'est que l'État d'Israël propose ses secours au pays qui a été touché. Là, en l'occurrence, c'était la Turquie, mais chaque année, il y a eu au Japon, il y a eu à Haïti, il y a eu au Brésil, au Mexique, et ainsi de suite. L'État d'Israël présente ses capacités et ses possibilités, et le pays d'accueil accepte. Et puis après, il y a sur le terrain tout un organisme de l'ONU qui est spécifié dans les catastrophes. Et c'est eux qui vont décider par rapport à nos capacités, à nos possibilités, à nos effectifs, ce qu'il y a à faire. Vous voyez, l'armée israélienne a la possibilité de faire des recherches, de les retrouver. D'ailleurs, on a retrouvé 19 personnes qui sont les 40% de ce qui a été des plus de 40,
D'accord.
40 pays qui ont envoyé des... Nous, on a retrouvé 40% des blessés. Donc ça, c'est d'un côté de nos possibilités de retrouver, on a des équipes adéquates. Et d'un autre côté, c'est monter un hôpital de campagne qui c'est un hôpital militaire qui est basé sur des forces qui sont civiles aussi. Mmh. Et le MDA a envoyé aussi ses paramédics dans l'hôpital. Et donc, donner deux façons d'aide. D'un côté, les recherches, sauver les blessés sur le terrain, et puis après, donner les soins continus pour les blessés qu'on a retrouvés et d'autres.
Mmh. Il s'est passé combien de temps entre le séisme et l'installation de votre hôpital de campagne?
Alors, nous, le séisme a eu à 4 heures du matin à peu près, heure locale. Mm-hmm. Et nous, à 6 heures du matin, on a déjà reçu des WhatsApp, vous voyez, dans le groupe de l'équipe. Préparez-vous, apparemment, et ainsi de suite. Puisque la demande de l'État turc a été, si j'ai bien compris, vers 7 heures du matin. À 4 heures, il y a eu le séisme. Quelques heures après, ils ont compris l'ampleur des dégâts. Il y a des villes un peu plus au nord, un peu plus à l'est, qui sont proches de la Syrie, qui ont été beaucoup plus touchées, mais l'État d'Israël n'a pas voulu, pour pas mettre en danger nos équipes, être trop proches de
la Syrie.
De la frontière de Syrie. Donc c'est pour ça qu'on a été un peu plus éloigné. Mais on a eu une équipe d'ailleurs qui a été envoyée à Anatakia. C'est une petite ville où il y avait une communauté de 17 personnes. Mm-hmm. Et les deux, le chef de la communauté et sa femme ont péri. Et on a envoyé un groupe avec une force plus importante de sécurité pour essayer de retrouver les deux corps. Dieu merci, ils ont été retrouvés et ont été inhumés en terre suivant la religion. Mais ça, c'était vraiment un cas spécifique parce que on était à 2-3 kilomètres de la Syrie et ça mettait un peu en danger les équipes. Mais en gros, si on peut en parler, sur le terrain, là où on était à Maras, on n'a rien ressenti au point de vue de la population. Au contraire, ils demandaient que les équipes israéliennes, amenez-nous des Israéliens.
D'accord. Ok. Donc une notoriété, effectivement, par votre expérience sur vos précédentes interventions sur des lieux où on a déjà eu des glissements de terrain, des tremblements de terre déjà très très meurtriers. Le Magen David Adom, donc, et vous, l'équipe, vous avez apporté concrètement qu'est-ce que vous avez apporté sur le terrain comme matériel? Est-ce que vous avez amené des médecins qui étaient effectivement plus spécialistes des traumas? Comment ça s'organise? Se hiérarchise une équipe?
Voilà, alors en gros, le MDA est un service de secours en Israël. D'accord, c'est sa première mission, c'est donner les premiers soins comme le SAMU en France ou les pompiers. D'accord, donc ça, c'est le but du MDA, donner les premiers soins en Israël. Vu que le MDA, depuis 2006, je ne me trompe pas, et fait membre de la Croix-Rouge internationale, on a aussi une mission de porter aide, mais c'est une aide qui n'est pas de secours des vies, c'est plutôt une aide humanitaire. Mais cette fois-ci, le MDA est parti en Turquie, pas comme aide humanitaire, mais comme aide médicale. D'accord, c'est d'ailleurs une première fois que MDA participe en dehors du territoire israélien en tant qu'équipe médicale.
Et non militaire.
D'important, voilà. C'est important pour nous d'être une équipe médicale en travaillant suivant les normes internationales.
Donc en fait sur place, finalement, il y a une coopération entre des équipes médicales de différents pays, et on oublie les nationalités, puisqu'en fait la nécessité, c'est une course contre la montre. Finalement, il y a un temps précis pour retrouver les survivants. Au-delà de ça, on décide d'abandonner les recherches.
Voilà, c'est que même la Turquie elle-même en tant qu'État, voulait remettre les villes sur pied, leur donner un espoir de reconstruire, de rebâtir la ville. Et eux, très rapidement, ont commencé à faire un nettoyage de la ville avec des grues, je sais pas comment dire en français, mais
des tractopelles, des grosses machines pour déblayer.
Pour déblayer. Et nous, on travaille, c'est vraiment un travail à la pincette, on travaille très très spécifiquement dans des points donnés. Et c'est complètement différent de ce que l'État. Donc les premiers jours, ils nous laissent travailler tranquillement, puis après, on commence à déblayer à grande force. C'est un contraste très fort qu'on voit sur le terrain. Des familles qui encore ont l'espoir de retrouver des survivants, et d'un autre côté, les grandes machines qui commencent à déblayer sans faire, si on peut dire, attention à ce qui se passe, tout en sachant que après 48, 72 heures et ainsi de suite, comme vous l'avez dit, l'horloge humaine ne peut pas tenir plus que ça, malgré qu'on a vu des miracles.
Oui, il y a eu quelques miracles.
Chaque personne on peut tenir 72 heures, on peut tenir presque une semaine, mais là, il paraît que vendredi dernier, je sais pas, il y a eu encore quelqu'un qui a été retrouvé. Il y a des miracles. C'est quelque chose qu'on peut dire. Même les gens, vous voyez, des athées qui n'ont pas cette foi, nous disent, écoutez, là, on voit qu'il y a des miracles. Je sais pas qui est le responsable des miracles, mais on voit qu'il y a des miracles dans ce monde.
On a vu beaucoup d'images impressionnantes, hein, des dégâts. Il y a eu effectivement 10 grosses villes avec une forte densité de population, hein, qui ont été touchées. Vous êtes arrivé sur place. Est-ce que vous aviez déjà vu des dégâts d'une telle ampleur? Parce qu'on parle de plus de 40 000 morts. C'est presque, enfin, des villes entières à reconstruire. Quel a été votre sentiment en arrivant?
Alors moi, c'est la première fois que je sors en dehors du territoire israélien au point de vue médical, traitement dans des séismes. J'arrive même pas à le dire. C'est quelque chose de tellement fort, de tellement poignant que on peut voir. J'ai vu après les photos, vous voyez, avant, après, mais quand on est sur place, il y a les odeurs, il y a les feux de camp, il y a les gens qui sont dehors dans des tentes, des enfants qui sont couchés dans les trottoirs, la distribution de soupe populaire, ainsi de suite. C'est quelque chose qu'aucune photo peut réellement vous marquer, si je peux dire.
À quel moment, alors, est-ce que c'est l'ONU aussi qui décide à un moment de dire on arrête les recherches et on remballe, en fait, comme on vous installe et on vous attribue des tâches pour finalement repartir et laisser un peu les choses? C'est l'ONU ou c'est le gouvernement turc dans ces cas-là qui décide?
C'est les deux.
C'est les deux.
L'ONU ne prend aucune décision concrète sans le pays d'accueil.
D'accord.
C'est très simple. Pour permettre aux prochaines délégations d'arriver et de travailler de façon effective, ils sont obligés de travailler de façon très étroite avec l'État turc. C'est vrai qu'il y a des fois un peu de... les Turcs voulaient plutôt qu'on sorte. Les délégations veulent rester encore un peu plus sur le terrain pour essayer encore de sauver des vies. Et à la fin, on trouve un compromis pour essayer de respecter l'État et d'un autre côté laisser travailler les gens qui sont venus pour ça. On laisse les familles, le travail, les cliniques pour les médecins, on laisse tout de côté, on se met en danger, puisque quand on rentre sous les vestiges d'un appartement et il y a des tremblements de terre secondaires,
oui,
ça met en danger les équipes. Ça, y a rien à, on peut pas le cacher.
Oui.
Les familles qui sont restées en Israël, elles le savent aussi. Mm-hmm. C'est quelque chose que ça. Et pendant toute cette semaine-là, je pense qu'il y a des prières qui font les allers-retours entre Israël et la Turquie à haut niveau.
D'accord, ok. Alors, on a beaucoup parlé de la Turquie. Hein. Il y a eu aussi le séisme en Syrie qui a fait quand même des victimes avec des chiffres plus revus à la baisse, même si j'imagine que c'est un peu plus compliqué d'avoir des informations. Vous avez, vous, été en contact avec des équipes qui ont pu aller en Syrie pour savoir un peu comment ça s'était passé de leur côté, notamment?
Je sais pas si la Syrie est membre de l'ONU et si elle a cette possibilité de demander de secours. Mm-hmm. C'est quelque chose que je ne sais pas. Je sais que la plupart des pays qui ont le droit de secours sont des pays qui ont eux-mêmes des délégations et des équipes.
D'accord.
Notamment la Turquie qui, pendant, si je vous rappelle, il y a quelques années où il y a eu un grand feu forestier du Carmel.
Oui.
Les équipes bénévoles de Turquie sont venues avec leurs avions tankers et ils ont aidé à éteindre les feux. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui est une aide des deux côtés, vous voyez. Mm-hmm. Donc, la Syrie, je ne sais pas réellement si elle a un accord avec quelqu'un.
D'accord. Alors, c'est vrai que donc vous êtes rentré. Alors moi j'ai une question un peu pour parler un peu donc on parle d'Israël maintenant qui finalement est pas si loin, on parle aussi qu'Israël est sur une faille et tout. Si demain il devait y avoir un séisme d'une telle ampleur en Israël, est-ce que les constructions actuelles sont adaptées?
C'était une question. D'ailleurs, je vais commencer par une réponse un peu là. L'année 2023 a été décidée bien avant le séisme qui s'est passé en Turquie par l'État d'Israël
Oui.
en l'année des séismes. D'accord? Donc, tout est focalisé, tous les exercices, les entraînements dans les écoles, dans les municipalités, dans tout, dans tous les départements, dans les bureaux et ainsi de suite, tout est focalisé cette année sur les séismes. Alors, dire que l'État d'Israël est prêt à 100%, je ne peux pas dire, mais il y a du travail de fond qui a été fait durant des années. Il y a, je pense qu'aussi le séisme qui a eu lieu il y a 2 semaines, a donné une claque à certaines personnes qui pensaient que chez nous ça pourrait jamais arriver ou que c'est quelque chose de loin qui se passe, de très loin, qui se passe habituellement au Japon, dans des pays éloignés. Et là, d'ailleurs, le pays a ressenti de
Oui.
grandes secousses durant ces 2 semaines-là. Donc, je crois que les gens comprennent qu'il faut se préparer. Les préparations sont très très simples d'ailleurs. C'est préparer à boire, à manger des conserves et un ou deux des choses pour éventuellement sauver des vies. C'est un cric pour le cric pour relever les voitures, un levier. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Ce sont des choses très simples qu'on peut avoir à portée de main et c'est ça qui vont sauver les vies. Vous savez, en Turquie, on a vu ça nombre de fois. Les voisins et les gens qui sont venus avant les équipes ont sauvé le maximum de vies. Et
D'accord.
c'est d'ailleurs quelque chose
Ouais.
qu'on a appris ça en Israël et les municipalités ont créé ce qu'on appelle le SAR, ce sont des groupes d'intervenants civils, ce sont pas des gens qui font, c'est pas des milouines, c'est pas des bénévoles de organisme quelconque, ce sont des civils qui sont sous l'égide de la municipalité. Et eux sont prêts à retrouver des gens de façon très très simple, avec un marteau, une pelle et un
Oui.
feu. Vraiment très simple.
D'accord. Alors pour conclure, je voudrais quand même rappeler qu'effectivement le MD, le Magen David Adom aussi, vous œuvrez surtout au quotidien en Israël. Avant les séismes en Turquie, il y a eu une nouvelle vague d'attentats avec de nombreuses victimes, dont des enfants. Ça, de toute façon, ça reste votre quotidien, je dirais, malheureusement,
Oui,
d'intervenir.
malheureusement.
Ouais, malheureusement, d'intervenir au quotidien. Mais en tout cas, nos auditeurs ont pu apprendre que vous avez la capacité aussi de pouvoir intervenir à l'étranger, que vous faites partie donc de l'organisation Croix-Rouge et que du fait vous êtes habilité et vous êtes sollicité de par votre expérience et votre savoir-faire pour pouvoir intervenir dans des zones où il y a des dommages humains et on va dire logistiques beaucoup beaucoup plus importants. Shalom Galine, merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui dans cette émission. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, en espérant que on aura l'occasion de se parler de choses beaucoup plus joyeuses pour la suite. Et en tout cas, merci au
Au
Magen
MDA,
David. Ouais.
je dis au MDA, les choses heureuses, c'est des naissances. Alors
Voilà,
souhaitez-moi d'autres
exactement.
naissances.
Voilà. Donc, et en tout cas, au nom de tous nos auditeurs, merci en tout cas pour ce que vous faites au quotidien. Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Magen David Adom Shalom.